Mémoire vive, l'émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, animée exceptionnellement encore par Dominique Trimbure, avec un invité plus exceptionnel encore, qui est donc Saul Friedlander, que nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir pour ce deuxième volet, après le parcours, l'histoire et notamment le dernier volume paru aux éditions du Seuil en 2008. Le secteur éditorial français dispose désormais des œuvres majeures parues ces dernières années sur l'histoire de la Shoah. En 2006-2007 est parue la version que l'on peut qualifier de définitive de la destruction des Juifs d'Europe de Raoul Hilberg chez Folio, Gallimard. Au mois d'octobre 2006 est parue en français Les origines de la solution finale, est paru aux belles lettres avec un soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Au printemps de l'année 2008 est paru le livre L'étude, l'essai de Peter Langerich, l'Allemagne portant sur les Allemands et la Shoah, paru aux éditions Héloïse d'Ormesson. Et enfin, last but not least, avec l'aide de la Fondation pour la mémoire de la Shoah toujours, est paru en 2008 donc le deuxième volume de la somme de Saul Friedlander sur l'Allemagne nazie et les Juifs. Le premier tome était paru en 1997, portant sur les années de persécution. En 2008 paraît donc le deuxième volume, portant sur les années d'extermination, donc sur la Shoah proprement dite. Je le disais, c'est une somme, dans la mesure où le volume 1 porte sur 529 pages. Le volume 2, le plus douloureux certainement, porte sur 1024 pages dans sa version française. C'est une chronique tragique, mais un livre aussi peut-être définitif, qui s'est attiré les récompenses, notamment un prix peu connu en France, mais très connu en Allemagne, le prix de la paix des libraires allemands, en 2007. Et Saul Friedlander prononce, ce mois de juin 2008, la célèbre conférence Marc Bloch. Alors Saul Friedlander, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que l'on pourrait rappeler, on en a un peu parlé dans le premier volet de cette émission, rappeler votre méthode, la méthode que vous avez appliquée pour l'écriture de ces deux volumes et en particulier pour l'écriture de ce deuxième volume. Quelle est cette méthode et quelle est la motivation de ce choix?
Alors, il y a d'abord Et la méthode, si vous voulez, mais il y a surtout l'idée centrale, c'est d'unifier, d'intégrer une historiographie immense, d'ailleurs, sur les persécuteurs et leurs institutions et leurs collaborateurs, etc. Donc sur le côté allemand, sur la politique de persécution et d'extermination allemande et européenne, par auxiliaires interposés, et les travaux que vous avez mentionnés, que j'admire beaucoup, et je connais très bien leurs auteurs, je connaissais dans le cas de Hilberg, sont tous concentrés là-dessus. Donc Langerich s'occupe dans son dernier volume de l'opinion allemande à l'époque, mais ses volumes antérieurs sont sur la politique allemande d'extermination.
La vue du bourreau.
Voilà, la vue du bourreau chez Hilberg, c'est au centre même de sa pensée. Et c'est lui le premier, d'ailleurs tout à fait pionnier, avec Léon Poliakov. Et c'est une vision des bureaucraties d'extermination, plus que de toute autre chose. C'est-à-dire qu'il est parti de l'idée qu'il s'agissait d'un automatisme bureaucratique, il l'a expliqué d'ailleurs au début du premier volume, et puis très logiquement, il l'a poursuivi jusqu'à la fin. C'est le grand ouvrage sur les bureaucraties de l'extermination, Christopher Browning, un peu le disciple de Hilberg, bien qu'il ait étudié ailleurs, mais néanmoins dans la même ligne de pensée, les origines de la solution finale, son grand ouvrage que vous avez mentionné, est aussi une étude des de la politique allemande, politique et mesure, donc qui nous montre quand à peu près la décision de l'extermination est tombée. Alors ça, c'est un volet. Hein.
Voilà, et j'allais dire, à l'appui de cette interprétation, effectivement, il n'est pas étonnant que Christopher Browning parle de solution finale qui, on le rappellera aux auditeurs, est l'euphémisme nazi qui a été appliqué en fait à l'entreprise de destruction des Juifs d'Europe.
Oui, c'est vrai. Alors, vous avez ça. Et puis, chez Hilberg, il y avait presque, en tant que principe, oui, même pas presque, en tant que principe, l'idée que toute cette histoire, l'histoire de la destruction du judaïsme européen, ne pouvait être écrite qu'à partir des documents allemands. Et il était sévère pour les documents venant des victimes même, qui considéraient comme, enfin, n'ayant pas valeur historique. Alors, il y avait parallèlement à ça, simultanément, une historiographie juive, si l'on peut dire, interne, c'est-à-dire racontant la vie et la mort des Juifs dans telle ville, tel ghetto, et, disons les Juifs de Bialystok pendant la Shoah, ou bien la révolte du ghetto de Varsovie, ou bien les Juifs de tel ou tel camp, et, bien sûr des livres sur Theresienstadt, etc.
Plus de l'ordre de la chronique.
Pas nécessairement. Et pas nécessairement une tentative du point de vue juif de couvrir la vie, bien sûr, les événements qui mènent à la destruction finalement de ces communautés, mais aussi la vie quotidienne, les couches sociales diverses, dans le ghetto de Varsovie par exemple, la montée de nouvelles couches sociales chez Gutmann dans son livre sur les Juifs de Varsovie. Donc il y a une tentative de faire un travail scientifique, d'écrire une histoire telle qu'on l'écrit en général. Mais ces deux approches se côtoyaient et ne formaient pas un ensemble, en tout cas pas une narration intégrée. Alors mon idée, que je poursuis depuis très longtemps, et qui a été, si vous voulez, déclenchée, enfin le travail a été déclenché par une controverse avec un historien allemand, Martin Brochat, qui était le directeur à l'époque de l'Institut d'études contemporaines, d'histoire contemporaine à Munich, Institut für Zeitgeschichte, qui a qualifié dans cette controverse la mémoire juive de la Shoah, du Troisième Reich, de mémoire mythique. Et alors bien sûr, ceci m'a fait sentir à quel point il y avait une sorte de presque de mépris, dirais-je, pour tout ce pan de cette histoire, la dimension juive, et qu'on laissait de côté comme si on pouvait tout expliquer en se basant seulement sur les documents allemands, sur l'analyse de la politique allemande. Et je me suis dit non, et ce n'est d'ailleurs pas possible historiquement. Il faut aller voir du côté des documents juifs, toute la dimension juive, et c'est ainsi que j'ai commencé mon travail. Le débat avec Brochat a eu lieu en 87, et j'ai commencé en 90. Alors, vous me direz, vous pourriez me dire, quels documents avez-vous ? Et c'est simple. Et j'essaye d'éviter de me référer à des mémoires écrits après la guerre. C'est-à-dire que...
Qui ont peut-être effectivement cette tendance à la réécriture
Non, pas nécessairement parce que les auteurs le voudraient. J'ai moi-même écrit un petit livre de mémoire et j'ai essayé d'être aussi honnête que possible. Mais je suis sûr que la plupart des auteurs de livres de mémoire ont cette idée qu'ils rapportent exactement ce qui leur est arrivé. Mais les années passant, c'est difficile. Et donc mon propos était de me concentrer sur les documents contemporains. Et notamment sur l'immense fond de journaux personnels et de lettres, etc., que nous avons. Et c'est à partir de cette base que je suis arrivé à intégrer, si vous voulez, ces voix, VOX, individuelles, dans le récit d'ensemble. et donner constamment la perspective juive, la vision des victimes, la vision des victimes par rapport aux événements qui se passaient autour d'eux, par rapport à l'attitude des populations, par rapport à, bien sûr, à l'attitude allemande au niveau du quotidien, etc.
Alors, une question pratique en lien avec une question que je vous posais dans le premier volume de cette émission, c'est de savoir, vous disiez, nous avons ces chroniques, ces journaux, où se trouvent-ils? Où est-ce qu'on trouve ce genre de documents?
Oui, alors on les trouve dans les centres qui les ont dès le début, qui ont commencé à les assembler. Vous les trouviez, et vous les trouvez encore, à l'Institut de l'Histoire juive de Varsovie. Ça a été, je crois, le premier. Ensuite, à Yad Vashem, à Jérusalem, à Ivo, à New York, et bien sûr, maintenant, le Holocaust Memorial Museum
à Washington,
a des collections tout à fait excellentes. Et bien sûr, ici, à Paris, au CDJC, vous trouvez également des documents inédits, des journaux, etc. Et puis, il s'avère qu'il y a des familles qui gardent encore des documents, comme la famille d'Hélène Baer, qui vient de...
Voilà, dont le journal est paru en 2007 aux éditions de Talendier, effectivement, et dont on a beaucoup parlé ici en France, parce que, effectivement, vous aviez presque cette expression « redonner voix aux victimes », en quelque sorte,
oui.
Et c'est vrai que là, on a redonné voix à cette Hélène Baer qui était inconnue du grand public,
inconnue,
et même des experts.
En effet. Et par ailleurs, pour bien comprendre la démarche, Hélène Baer, en tant que personne, était inconnue, mais le milieu dont elle venait était également peu représenté, c'est-à-dire quelles étaient les attitudes, les réactions, etc., dans la haute bourgeoisie juive de Paris.
Et
parce que la famille de Baer appartenait à cette classe. Et en général, on avait, si vous voulez, on avait le carnet de Raymond Raoul Lambert, classe moyenne, si vous voulez, et quelqu'un qui a travaillé dans les institutions juives pendant très longtemps. On a les carnets de Bielinki, mais qui était un juif étranger établi en France, donc, si vous voulez, Ostjudais en France. Mais cette haute bourgeoisie juive n'avait pas ses chroniqueurs. Et voilà, Hélène Baer non seulement nous donne sa voix, mais elle nous donne l'atmosphère de toute une société.
Effectivement. Alors vous redonnez leur voix aux victimes, vous donnez, vous insérez dans cet ouvrage monumental, encore une fois, une masse de témoignages, une masse de contributions. Vous reflétez aussi par là toute la complexité de la Shoah. Est-ce que la Shoah n'en deviendrait pas plus compliquée, justement, à comprendre? Est-ce que vous parvenez, et c'est peut-être une question un peu provocante, est-ce que on arrive tout de même à éclaircir ce que fut la Shoah à ce moment-là? Et je voudrais qu'on reparle de cette avancée de la Shoah et de ce calendrier de la Shoah.
Oui. Alors, je crois que ajouter ou intégrer la dimension juive et dans cette histoire générale dont on a parlé au début, ne fait que ça rend les choses plus complexes, évidemment, encore plus complexes, mais ça donne aussi toute sa, je dirais, ça ajoute encore à la dimension des événements, parce que vous avez en simultané, si je peux dire, les mesures allemandes à divers niveaux. Et puis les réactions juives, les tentatives juives, les espoirs ou les désespoirs juifs. Et alors, sur ce point, je voudrais dire que cette démarche permet en tout cas de répondre à une question que l'on s'est posée depuis le début, celle de la... D'abord, du point de vue allemand, si vous voulez, la facilité avec laquelle le processus a eu lieu. Effectivement, il n'y a pas eu d'anicroche, si ce n'est les difficultés technologiques ou logistiques.
Et en creux, effectivement, c'est cette...
Attendez, et en creux, si vous voulez, et la passivité des victimes.
Absolument.
Alors, ce que montrent ces journaux, et de nouveau, je ne me base pas sur un, deux, mais sur des dizaines qui couvrent le continent, de Riga jusqu'à Paris et d'Amsterdam jusqu'à Salonique. Les Juifs ne voulaient absolument pas voir ce qui était l'évidence même, qu'ils allaient être exterminés. Et à tel point que autour d'eux, et ça de nouveau, ces documents le montrent, on entend des rumeurs, enfin eux disent, on nous rapporte ceci et cela, mais enfin est-ce possible? C'est-à-dire que les populations ambiantes, et ça nous le savons très bien, en Allemagne bien sûr, en Europe de l'Est bien sûr, mais aussi à l'Ouest à partir de 1943, savaient que les Juifs déportés à l'Est allaient être tués. Et en fait, on a des documents de la police allemande disant dans telle ou telle ville de Westphalie, déjà dès décembre 1941, les gens disent ceux qui ont été déportés de chez nous vont être fusillés, quand s'ils ne peuvent pas travailler, on les tuera, etc. Donc les gens savaient, ils ne savaient pas exactement le côté technique, mais quand on lit les lettres de soldats allemands, et j'en cite beaucoup, on voit qu'ils assistaient à peu près à tout, et même à ce qui se passait à Auschwitz, parce qu'ils étaient cantonnés dans la ville, et puis ils allaient ensuite au front de l'Est, ils écrivaient à la maison, ils racontaient tout ce qu'ils voyaient, tout ce qu'ils savaient. Les Juifs ne voulaient absolument pas croire que ce serait leur sort. Alors on peut se demander pourquoi les uns le savent, et le savent d'ailleurs plaisante très souvent. Hein. Il ne faut pas croire que ça a été un choc, et non, pas du tout. Les lettres de soldats sont souvent ils racontent des blagues dans le sens, c'est vraiment amusant. Par exemple, l'un décrit l'exécution de 1300 juifs dans un petit endroit en Pologne, et il montre comment ensuite, enfants, femmes, hommes, on prend les habits, on les désinfecte pour les réutiliser. Il dit, si ça continue, on va tourner les Juifs en saucisson et les servir à manger aux prisonniers russes et aux Juifs techniciens qui restent en vie. Donc c'est rigolo, quoi, tout ça. Et l'autre dit à Auschwitz, où je suis maintenant, les Juifs arrivent au rythme de 7 à 8 000 par semaine et ils meurent ensuite, quelques jours après, d'une mort de héros. Heldentod, n'est-ce pas? Et ils disent, c'est beau de voir le monde, il ajoute comme ça. Donc, vous voyez, c'est pas du tout le choc ou le... Bon, alors...
Une dimension supplémentaire à l'horreur.
Exactement. Alors, les victimes ne veulent pas voir, ça, si vous voulez, c'est une réaction psychologique que nous connaissons aussi chez des malades terminaux. Ils vous disent, d'une part, on en a pour quelques jours et après, ils commencent à faire des projets pour les vacances prochaines. Ça, on connaît ça, n'est-ce pas? Et ce n'est pas difficile à comprendre. Vous ne pouvez pas imaginer, vous êtes tellement haï qu'on vous envoie quelque part où on va vous tuer sur place. Et ceci par centaines de milliers, si vous voulez. Mais les autres arrivent à comprendre très facilement, parce que ça ne les gêne pas du tout. Au contraire, il se peut qu'on aura des appartements, ou il se peut qu'on aura des chaises et des lits et des machins comme ça, ou alors il se peut que les Juifs, de toute manière, sont des étrangers indésirables et qui n'ont fait que nous gêner. La propagande aidant, le danger juif devient quelque chose de concret. Et alors, c'est tout à fait, en fait, compréhensible, même acceptable, même peut-être très valable qu'on les liquide. Donc les uns savent et comprennent, et les autres se refusent absolument à voir, ce qui explique la fameuse passivité, parce qu'on veut gagner du temps, on veut survivre en travaillant, dur peut-être, et arriver à la fin de la guerre. Et donc tout se passe avec la plus grande facilité.
Humain, trop humain, comme dirait un certain écrivain, un certain philosophe.
Oui, si vous voulez, mais enfin c'est une humanité qu'on découvre là, qui est vraiment le fond de l'horreur en ce qui concerne les sociétés ambiantes. Vous savez, et je vais dire quelque chose qui est peut-être la question que je continue à me poser après toutes les autres, que des centaines de voix VOX de nouveau éminentes ne se soit pas élevé en Europe pour dire nous protestons contre ce que l'on fait aux Juifs, ça s'était passé à l'égard des malades mentaux en Allemagne, n'oubliez pas.
La fameuse action T4.
Oui, alors l'évêque Galen est monté en chaire à Münster et a annoncé qu'il allait en chaire un dimanche, qu'il allait intenter un procès au parti nazi pour les crimes qu'il commet, etc., etc. On ne lui a rien fait, hein. Et parce qu'on ne voulait pas avoir des ennuis avec les catholiques au moment où de la campagne de Russie. Donc que des centaines de gens ne l'aient pas fait à l'égard des Juifs, ça se comprend, on avait peur ou bien on était content. Que des dizaines ou une dizaine ne soient pas exprimées, c'est déjà étrange. Je parle de l'Europe entière. Que pas un seul ne soit déclaré publiquement « on extermine les Juifs, je fais appel au monde », etc., ça, c'est incompréhensible.
On a effectivement déjà des milliers de pages écrites et encore des milliers de pages suivront à écrire sur la Shoah et effectivement se posent encore toujours toutes ces questions. Alors justement, et malheureusement nous sommes déjà en train de nous avancer vers la fin de cette émission, on multiplie les connaissances sur la Shoah. Et pourtant, on semble toujours redécouvrir des choses. Et j'ai justement une question. Vous observez la France régulièrement, et mais vous l'observez de l'extérieur. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on semble, et je dis vraiment, j'utilise le verbe découvrir, on semble découvrir en France, ces derniers temps, l'existence des tueries en masse perpétrées par les Einsatzgruppen. Vous avez certainement entendu parler des travaux du Père Desbois, avec toute la médiatisation qui existe autour de cette quête que l'on peut qualifier de spirituelle, plutôt peut-être que de scientifique. Comment est-ce qu'on peut expliquer que cette Shoah d'avant Auschwitz ait été ou semble avoir été tant ignorée jusqu'à aujourd'hui en France?
Mais en France, je ne sais pas. Mais ce n'est qu'hier que quelqu'un m'a raconté qu'en France, on semble redécouvrir les tueries en territoire soviétique occupé par les Allemands. Et donc, la pré-Shoah, le sort des Juifs des territoires soviétiques qui n'était pas lié en fait à la solution finale, entre guillemets, de l'ensemble du judaïsme d'Europe, mais enfin a amené à la tuerie par Einsatzgruppen de 600 à 700 000 juifs de ces territoires avant décembre 1941, donc en 6 mois de campagne sur les territoires soviétiques. Mais tout ça, c'était archi connu un peu partout, c'est-à-dire babillard est quand même un terme qui revenait dans toutes les littératures à ce sujet-là. Et en Allemagne, vous avez des dizaines, sinon des centaines d'ouvrages sur les Einsatzgruppen et sur les tueries en territoire. Je suis totalement époustouflé d'entendre dire qu'en France, on découvre ou redécouvre quelque chose que l'historien ou même le grand public, dans beaucoup d'endroits, connaît parfaitement.
À mon grand regret, nous devons nous arrêter ici sur cette discussion. Donc je ne peux que conseiller la lecture du volume 2 de votre monumentale histoire de l'Allemagne nazie et les Juifs. Merci beaucoup, Saul Friedlander.
Merci.